Je pense qu'à une idée de perfection et de justice dans l'humanité qui est telle que lorsque eh bien il y a des choses qui rentrent en contradiction avec cela, eh bien c'est douloureux, c'est toujours très douloureux à aborder, ce qui n'est pas une raison pour y renoncer, bien évidemment, au contraire, mais enfin moi je le ressens toujours comme quelque chose d'assez voilà, d'assez douloureux en résumé, quand il y a une contradiction de ce type qui peut se manifester.
Oui, je suis assez d'accord.
Au contraire, je dirais plutôt que l'homme, comme tu disais plutôt tout à l'heure, considère plutôt que perfectible plus que parfait. L'idée, l'homme parfait serait plutôt du côté, certains autoritaires justement qui imaginent la société parfaite qui conduirait à l'homme parfait grâce à coups de rééducation entre autres. Donc on est plutôt réaliste quoi finalement, même dans les sociétés, une société qu'on dirait anarchiste, on envisagerait encore
d'évoluer finalement.
Oui, c'est
s'autocritiquer, etc., ou des choses comme ça. Je pense que quand même, et puis on peut reconnaître humblement qu'on n'a pas une réponse toute faite comme ça, minute, à toutes les situations qui pourront se présenter, dont on n'a d'ailleurs aucune idée à l'avance. Parce que ce serait une situation nouvelle d'être dans un contexte comme ça. Quels seront les problèmes qui se présenteront réellement? Et comment, collectivement, on tentera, sur quelle base on tentera de trouver des réponses? C'est vraiment très, très difficile. En tout cas, c'est pas nous qui serions une avant-garde, qu'aurions comme un candidat aux élections, qui aurions une proposition sur la base de laquelle les gens vont accepter de voter pour le type de société qu'on propose, parce que ça sera eux aussi, la société en question. Tu vois, c'est pas nous qui allons leur donner tout clé en main, puisque on sera pas plus légitime que quiconque comme avant-garde pour décider des solutions à apporter aux problèmes éventuels qui se poseraient.
Il y avait Kropotkin, par exemple, qui avait réfléchi un petit peu sur le sujet. Et entre autres, à un moment donné, ce qu'il disait, alors c'est pas le seul anarchiste, évidemment, à s'être interrogé sur la question, mais il rejoignait ce que tu avais dit, Sylvie, à un moment donné, dans l'émission, à savoir que ce qu'il exprimait, c'est que, à partir de... Quand il y avait, dans une société, enfin, telle que la société dans laquelle lui pouvait se projeter, une société libertaire, que lorsqu'il y avait un délit qui était commis, la société devait s'interroger elle-même sur ce qui avait pu être la cause de ce délit. D'ailleurs, c'est d'avoir cette capacité à s'interroger, à se remettre en cause sur ce qui s'était passé, comment ça avait pu être possible, comment ça s'était produit, etc. Alors que dans la société d'aujourd'hui, c'est le débat qu'on avait sur les équivalences. On viendra peut-être à travers une émission spéciale là-dessus et tout. Mais il n'y a pas d'interrogation. La société ne, globalement, à travers la justice, ne veut pas s'interroger sur ce qui a pu permettre, autoriser qu'un délit ou crime soit commis. Il y a des barèmes. Il y a des barèmes qui sont fixés, des équivalences où tel délit se traduit en tel jours, mois, années de prison ou en telle amende. Donc la seule réponse qu'il y a, c'est la punition. Kropotkin, lui, mettait en avant effectivement la nécessité pour une société de s'interroger sur ces crimes et délits qui avaient pu amener cette société à ce qu'ils se produisent. Mais c'est impossible que cette société s'interroge de cette façon-là. Si on prend la quasi-totalité, à part les crimes de sang, hein, mais des crimes qui sont commis pour la recherche d'argent, par exemple, évidemment que la société peut pas s'interroger sur ce qui produit cette recherche d'argent à travers différents délits, braquages, etc. Parce que sinon, elle se remet automatiquement en cause elle-même comme société inégalitaire.
Oui, mais enfin, là, je veux dire, encore une fois, hein, la question des délits d'argent, on la balaye plus facilement que la question des délits sexuels. Donc on en revient toujours à cette question-là, qu'on ne peut pas botter en touche à chaque fois, en disant, mais il n'y aurait plus tel type de délit, ça oui, on est d'accord.
Oui, mais justement...
Mais le problème, c'est que, est-ce que on te dit, et c'est à ça qu'il faut répondre. On ne peut pas toujours dire, au moins on résoudrait ces problèmes-là. Ouais, ça, ok, mais les gens te demandent ce que tu ferais pour Michel, des Ted Bundy et des Marc Dutroux, tu vois. Et c'est là-dessus qu'il faut répondre.
Mais ça revient à ce que tu disais en début d'émission par rapport au fait que certains crimes se commettent en fonction de la société. Voilà. Et que ça, la société doit être capable de s'interroger justement sur ce qu'elle génère.
Ça là-dessus, je suis d'accord. Parce que ce en quoi je contestais, c'était l'idée de reprendre l'exemple de l'argent, parce que les gens te disent c'est pas pareil, donc il faut répondre sur l'idée que c'est peut-être, parce que je suis pas totalement affirmative, mais enfin il y a des bonnes chances que ce soit d'une certaine manière qu'il y ait un cousinage dans le sens où il y a une influence du contexte. Mais en ce qui concerne l'argent, c'est incontestable. Donc cet argument-là, ah oui, puis qu'est-ce qu'on ferait sur les gens qui voleraient? Tu réponds, bah il y aurait pas de vol, puisqu'il y aura chacun selon ses besoins ou selon ses moyens, il y aurait pas de vol, évidemment. Mais ça c'est facile, si tu veux. Donc il faut arriver à argumenter justement pour dire c'est moins différent que tu ne l'imagines, de l'idée que de l'autocritique du contexte, etc., elle s'appliquerait aussi dans ce domaine-là. Mais tu peux pas botter en touche en disant « mais il restera plus grand-chose », si tu veux, parce que c'est sur ce plus grand-chose que tu dois argumenter, à mon avis. Je sais pas, non ? Oui, on arrive au...
Il est 13h15, 13h15, 13h02.
Oui, d'accord, c'est vrai. Ce carrosse se change en citrouille. Donc, malgré tout, s'il y en a qui sont encore à l'écoute, on peut peut-être rappeler le titre de la brochure en question, sans dire le nom, non ? Bien que je l'ai malencontreusement prononcé tout à l'heure. Mais de toute façon, vous le verrez si vous retrouvez la brochure. Voilà. Je suis un peu focus sur ce coup-là, mais bon, oui, vas-y. Tu peux dire
un faux ami et un vrai violeur.
Voilà. On vous donne dans le milieu libertaire, oui.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi matin à 11h pour un nouvel épisode lundi matin. Ça va continuer en chanson, en musique, pour l'instant, sur Radio Libertaire. Retrouvez-nous sur le site anarchiste.info en ce qui concerne l'émission lundi matin et le groupe Libertaire d'Ivry. On se quitte avec, je pense que ça va être, si je me trompe pas, oui, ça va être John Newker. On écoute donc John Newker. Bonne semaine à vous toutes et tous, et peut-être à la semaine prochaine. Au revoir.
you every day. Well, I see you every day in your neighborhood. Well, I see you every day. Well, I see you every day. You might be, I got my eyes on you.
Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Plisiette, ton oreille pédie, t'es ni bon zo type au grand compiti. On la média, pas ici, pas là. 17e l'été aussi, patate, pétcole, machine 30 DC, en tralala. En tantal, la démété, j'irai un code, joli coup de grâce. C'était enfant de casse, sacré pistache, mi pisa, mouillé moustache, et ich m'abance. Vini, j'ai folle France, ni caca, bolance. Bon Dieu, pitié, cabou étier, chaudi pas qu'à dil en moitié. Machant poisson, bisouin lisson. Yo parlez bas polisson, soldat qui t'es mal élivé, entend yo pas t'es ni chivé, qu'a mandé la bibliothèque, qui tant que ni en jirétec, faut qu'ou t'étonne, litani motonne, j'irai des pisoteilles jusqu'à poil menton, c'était fan con, ou mourir ensemble, qui t'es qu'à descendre, qui m'a fouti, sacré sapristi. Tout le monde t'es sage, j'irai à d'un plisier ton oreille pédie. T'es ni bons outils pour grand compiti. On la média, pas ici, pas là. 17e l'été aussi, patate, pète, code, machine 30 DC, en tralala. En tantal, la démété, j'irai en code, joli coup de grâce. C'était en forme casse, sacré pistache, mi pisa, mouillé moustache. Et je m'en pense, vini, j'ai un vol France, ni caca, bon lance.
Venise est à Bruges, je dis que Londres est à Bordeaux. Sur l'art de refaire le monde, le désaccord est immédiat. Notre mésentente est profonde, l'un est à U et l'autre à Dia. Nos divergences
sont si purs et nos conflits si généreux. Vivons ensemble et je te jure que nous serons très malheureux. Toujours pressé, tu fais la course sans crier gare, montre en main. Je m'attarde sur la grande ours, je musarde sur le chemin. En bonne mésintelligence, marchons à pas inégaux, désunis jusque dans la danse. Tu es valse, je suis tango. Nos divergences sont si pures et nos conflits si généreux. Vivons ensemble, je te jure que nous serons très malheureux. Pour éviter toute harmonie, soignons notre jardin secret. Semons un peu de zizanie, voici quelques graines d'ivraie. Croquons la pomme de discorde, cherchons 14 heures à midi. Sur la place de la Concorde, empruntons les sens interdits.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme la plupart des mercredis, matin, de 9h30 à 10h30. Et aujourd'hui, il y a du monde dans le studio, Agathe, Julien et Maïdine, donc pour parler... sur le thème de, eh bien, de la des dépendances. Voilà. Bonjour.
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 Alors oui, on a, Agathe, nous invitons aujourd'hui l'association AFDER.
Exactement. L'AFDER, c'est une association dont mes invités parleront mieux que moi. Et l'AFDER, c'est quoi donc ? C'est de la dépendance, c'est de la lutte contre la dépendance en aidant les...
Les familles. Alors voilà, ouais. Donc je suis Julien, le président de l'AFDER. L'AFDER, c'est une association de patients qui s'est créée en 2003. C'est un paquet de patients qui sortaient d'un centre de traitement qui est assez connu, qui s'appelle APT, qui a été créé par la fille de Jane Birkin, et qui est sur le modèle Minnesota, qui est un modèle expérimental, qui était le premier en France à faire ça. Donc c'est une expérimentation avec succès. Et donc, on s'est rendu compte qu'au fait du château, enfin on appelle ça le château, du centre de traitement, on était plus de 500 en rétablissement à se retrouver chaque année. Et donc, ça m'a impacté, moi, ça m'a impacté. Et donc, on a monté l'association, et qui s'est nourrie de ça. Et petit à petit, c'était pour, au départ, se retrouver ensemble. Et avec le temps, on a commencé à aider les autres. C'est-à-dire qu'on est devenu père aidant avant l'heure. On s'entraidait nous-mêmes. Et on a découvert qu'on avait ce pouvoir de pouvoir aider les autres à transmettre notre établissement aux gens qui désiraient arrêter de consommer. Et cette valeur ajoutée d'être un père en rétablissement a tout de suite eu du succès. Donc on s'est réunis de plus en plus. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte aussi que les familles étaient oubliées dans le système. Alors effectivement, quand on est associatif, on tape sur tous les coins qui vont mal. On se retrouve confronté à toutes les défaillances du système de santé. Alors, on aimerait bien rappeler quand même que la dépendance, les addictions en général, c'est une maladie reconnue par l'Office mondial de la santé, qui regroupe, qui a un éventail assez large, hein, parce que ça regroupe aussi bien les addictions aux produits, hein, illégaux, hein, parce que ça, c'est la première chose qui vient à la tête de tout le monde. De quoi on parle ? On parle des addictions, de la coke, les rôles, le machin, les jeunes qui se défoncent. Mais ce n'est pas qu'à ça. C'est aussi la petite vieille qui abuse de ses benzodiazépines, le fameux Lexomil, que je connais très bien. Et c'est la même chose. C'est une tox qui se retrouve accro à un produit et qui la dépasse complètement. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un éventail d'addictions complètement dingue. Alors, il y a les drogues, légales et illégales. Il y a l'alcool, qui est légal, qui est une drogue légale. Les médicaments, évidemment. Et puis, on rentre après dans la nébuleuse, qui est la point de jonction avec la santé mentale, c'est-à-dire les addictions sans produit. Alors là, on se retrouve avec le sexe, le travail, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La ludopathie, l'anorexie, la boulimie,
les jeux, la bigorexie.
Le fameux bigorexie, c'est l'addiction au sport qui tue des gens. On le voit aux Jeux Olympiques, etc. Les gens, ils sont virés, ils meurent. Tout d'un coup, ils courent et ils tombent par terre. Crise cardiaque. Ben, probablement, c'est un dépendant qui a abusé de produits. Voilà. Donc nous, on est vraiment dans le carrefour des gens qui souffrent. Voilà. Nous, on n'est pas là pour... si tu te défonces, c'est ton problème. C'est pas mon problème. Nous, ce qu'on veut aider, ce sont les gens qui sont dans la souffrance et qui cherchent une solution à cette souffrance. Parce que au bout d'un moment, toutes ces addictions débouchent sur une souffrance. Il faut savoir que 30% de la population est affectée par ce phénomène. Nous vivons dans une société addictive, hein, il faut quand même le reconnaître. On nous pousse à consommer, on nous pousse à boire, on nous pousse à ceci. Essayez dans une réunion de boulot de dire, moi, un apéro, je bois pas. Ouais. Il y a encore hier, j'étais avec mon épouse, je demande un coca et elle prend une bière, on me file la bière à moi et le coca à elle. Voilà, c'est je veux dire, les idées préconçues, c'est encore là. Et essayez de dire que vous ne buvez pas et tout le monde vous regarde de travers. Allez, on vous pousse, etc. Donc il faut avoir quand même un rétablissement, une force en soi qui est capable d'expliquer les choses et d'accepter sa maladie, parce que c'est une maladie. Moi, j'ai consommé pendant 27 ans parce que je ne reconnaissais pas ma maladie. J'ai toujours trouvé des excuses à ma maladie. C'est la faute de, à cause de mes parents, à cause de la société, à cause de, je sais pas quoi. Je trouvais tout, il y avait toujours une bonne excuse, tout en sachant au fond de moi que je me mentais. Et c'est la folie de cette maladie. C'est qu'on sait qu'on se ment à soi-même, qu'on est en train de devenir dingue. Et donc, on utilise même ça. Donc, j'ai une maladie mentale. Différente des autres, parce que je m'identifie pas en général avec les autres. Moi, je suis différent. J'ai un truc bizarre. C'est pas pareil. Qui me permet de rester dans ma zone de confort, qui est une zone de souffrance. Et au bout d'un moment, bah, cette zone de souffrance, elle s'agrandit. C'est-à-dire, on perd sa famille qui nous rejette, on perd son boulot, on perd les gens qui nous aident. Dans la société, après, même les services sociaux, au bout d'un moment, ils veulent plus de nous parce qu'ils savent plus quoi faire de nous. Jusqu'aux urgences. Moi, j'ai été rejeté par les urgences. Ils m'ont dit, non, c'est pas pour vous, il faut que vous alliez dans un lieu spécialisé. Très bien, monsieur, mais où ? J'en ai déjà fait 3. C'est lequel ? Bon, le bon. Et tout ça, c'est un parcours, c'est un processus. Voilà. C'est important de le dire, la santé mentale, c'est toujours un processus, c'est un chemin. On a une vie avant de... Souvent, on a une vie avant de tomber dans la maladie. Et on a une vie heureuse, comme tout le monde. Et puis, il y a des facteurs. C'est la rencontre d'un produit, d'un environnement, de souvent d'un problème émotionnel. Hein, l'addiction est très reliée à la difficulté de vivre ses émotions. Et on utilise les drogues comme les drogues ou pas drogues, justement, un comportement pour comme un médicament pour se rassurer, pour se sentir bien. Et au début, ça marche. Au début, c'est génial, ça fonctionne. Sauf que petit à petit, ben, c'est la pente raide. Et puis, on en prend plus, on en prend plus, on n'en a jamais assez. Moi, j'arrive pas à m'arrêter. Je commence à boire, je bois jusqu'à tomber par terre. Je prends des drogues tant qu'il y en a, etc. J'ai quelque chose dans mon cerveau qui fonctionne pas, dans le système de récompense. Alors, je vous conseille d'aller sur Internet. Il y a un site qui est vachement bien, qui s'appelle MAD, et qui donne des petites explications, des petites vidéos sur le système de récompense et les addictions. Ce qui fait que, ce qui explique aussi pourquoi c'est pas une question de volonté. Parce que tout le monde est là, ouais, sois un homme, arrête. Je sais arrêter, mais je rechute, c'est ça le problème. Arrêter, j'y arrive de temps en temps. Mais ce que je sais pas, c'est pas reconsommer. Et c'est là où rentre le truc de l'accompagnement et de l'aide. Parce que si on ne reçoit pas le bon accompagnement et les bonnes explications, on rentre dans un processus de santé mentale. On m'a envoyé à Sainte-Anne avec un petit mot sous enveloppe fermée, dans le carré du milieu. Et moi, j'avais demandé de l'aide à ce médecin.
Oui.
Je n'avais pas demandé
un accompagnement.
Ouais. Il me dit, là-bas, vous allez trouver de l'aide. J'y suis allé, et je suis tellement naïf et con, je n'avais même pas ouvert l'enveloppe.
D'accord.
C'est vraiment dans la confiance, quoi. Ouais. Quand on est dans le processus médical, souvent, on arrive à développer des trucs. Et puis, quand on est épuisé aussi, on se laisse faire. Ouais. Et j'arrive dans ce carré, et puis tout d'un coup, la porte se referme, il y a deux gros malabardes. La porte, je veux ressortir pour fumer une clope. Non, non, monsieur, vous attendez de passer voir le docteur. Putain, merde, où est-ce que je suis? Je commence à ouvrir les yeux, je vois des mecs qui bavent de partout. Et tout. Ah, putain, ça, c'est pas pour moi. Oh, l'angoisse qui m'est montée. Je suis enfermé dans un truc de fou. Et j'ai eu toutes les idées du préconçu, du con. Tu vois, enfin, oui. Je veux dire, je suis dans un truc de dingue, mais il faut que je sorte de là. Enfin, l'angoisse terrible. Je suis pas à ma place. Effectivement... La fille, je l'ai baratinée pendant une heure, et puis elle m'a laissé sortir.
Oui.
Alors qu'elle aurait peut-être pas dû, mais... Le fond du truc, c'est ça. C'est, on n'est pas préparé. Le parcours aussi n'est pas souvent préparé. Il n'y a pas de suivi dans les dossiers. On vous envoie... Alors, le truc sectoriel, c'est bien gentil, mais ce n'est pas toujours bon pour nous. Moi, j'ai fait 3 cures dans des centres de traitement... qui était très compétent, très bien, sauf que ça me parlait pas. Je comprenais pas le système, je comprenais pas ce qu'ils expliquaient. Il faut que j'arrête de consommer. Tout ce qu'ils me racontaient, je le savais déjà quelque part, mais ça faisait pas clic, ça faisait pas connexion de trucs, de comment arrêter, de comment trouver la solution. Jusqu'à ce que je tombe dans ce fameux centre Minnesota par hasard. C'est parce que je suis tombé dans une assoce à Paris qui existe plus maintenant, qui s'appelait Diderot. Et qui m'a envoyé là. Et là, quand je suis arrivé par le train, un peu en avance, et j'attendais les autres qui sortent de thérapie. Et tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, et je vois 8 personnes qui sortent en rigolant. Alors ça a été un choc pour moi. Moi, ça faisait 3 ans que je dormais avec un flingue sous le matelas pour me suicider. Et je vois tous ces gens qui sortent en rigolant de thérapie. Mais où est-ce que je suis tombé?
Moi, ouais, c'est pas le même effet que Sainte-Anne.
Voilà, exactement. C'est impressionnant. Moi, j'avais pas rigolé depuis 3 ans, quoi. Ouais. C'est quand on tombe dans le trou, d'abord, on a du mal à voir les gens qui veulent vraiment nous aider. Hein, et on est dans le déni, le fameux déni de la négation de sa maladie, qui est quand même un des gros points d'achoppement qu'il faut travailler. Et c'est là où la paire aidance, le partage d'expérience des pairs est vachement important. Parce qu'on arrive à expliquer aux gens, effectivement, qu'on vit dans le déni, qu'on est dans la négation de sa propre maladie. Oui, on accepte toute une partie, mais on ne veut pas se faire soigner. Oui. On a peur de se faire soigner. On a peur de souffrir. Il faut qu'on nous explique que tu vas pas souffrir, c'est comme tu le penses. Ça va être plus doux, plus si c'est bien fait. La désintoxication, moi c'était le grand truc d'achoppement. Le manque, la souffrance du manque quand on est vraiment avec des grosses quantités, c'est violent. Quand on fait ça tout seul à la maison, ça termine crise d'épilepsie, pompier, machin, ouais. Enfin, le bordel. Et quand on s'est bien fait, moi je me suis retrouvé à l'hôpital de Saint-Cloud, chez Sokolov, etc. Super. Ils m'ont pris en charge. J'étais la seule chambre où on pouvait cloper dans l'hôpital. Écoute, c'est des gens intelligents. Tu vas pas lui demander à un tox d'arrêter tout de suite, quand même. Il faut lui laisser une petite fenêtre, quoi. Un truc sur lequel se raccrocher. Et donc, on pouvait fumer. Donc, on ne pouvait pas sortir de la piôle. Moi, j'avais une télé, trois bonbons et mes clopes. J'étais le plus heureux des mecs. J'avais à bouffer, un lit chaud. Je pouvais me laver. C'est vraiment le paradis, hein, pour moi, à cette époque-là. Et j'ai pas souffert ce à quoi je m'attendais. Et donc tout ce parcours-là, qui était dans l'amour, je vais le dire, hein, c'est vraiment des gens qui sont bienveillants avec la maladie. Et c'est ça qu'on demande, on a besoin, je crois, le patient, il a besoin de ça. Ouais, je vais te laisser parler peut-être.
Non, mais je me demandais ce qu'était la méthode Minnesota.
Alors... Minnesota, Minnesota, c'est basé sur les 12 étapes des alcooliques anonymes.
D'accord. Voilà.
Donc, c'est partage par les pairs et l'acceptation de sa maladie, apprendre à demander de l'aide, apprendre que le groupe peut te donner de l'aide, c'est parce qu'on est isolé, on est tout seul au bout d'un moment. On est complètement... Oui. On a perdu les amis, la famille, tout ça. J'ai plus personne à qui me raccrocher. Donc, de reconstruire un groupe. Et où est-ce qu'on reconstruit ça? Eh bien, dans les groupes d'autosupport. C'est dans les groupes d'autosupport dont il n'y a pas d'autre solution. Oui. Enfin, je veux dire,
il n'y a plus que ça.
Il n'y a plus que ça. Mais c'est là aussi où on trouve une vraie force. Parce que j'ai la preuve que ça fonctionne sous les yeux. Quand un médecin me dit « vous êtes en manque, machin, faut tenir le choc », mais le mec, il n'a jamais été en manque de sa vie. De quoi il me raconte? De quoi il parle? Il ne sait même pas de quoi il parle. Donc, quand on est avec des gens qui savent, qui sont passés à travers là, ils comprennent. Nous, dans notre accompagnement, moi, je parle jamais de ce qu'il doit faire au niveau de sa consommation. Je dis juste, ne te tue pas, quoi. Fais gaffe, consomme un peu intelligemment. C'est pas le moment de te tuer juste avant de pouvoir t'en sortir. Fais gaffe, stabilise ta consommation. Et puis après, une fois qu'on a ça, les mecs, ils voient que ça fonctionne. Ils nous ont sous... On est la preuve vivante que ça fonctionne. Parce que moi, pendant des années, je pensais que j'étais une bête curieuse avec une maladie spéciale et que personne n'était comme moi.
Et que c'était foutu.
Et que c'était... Bah, évidemment, c'est foutu. Personne ne te comprend.
Oui.
Tu parles et personne ne t'écoute. Ou personne ne te comprend. Ou ils te disent un truc qui ne correspond pas à ce que toi, tu as comme schéma dans ta tête. Et ils ne font pas l'effort, en plus, d'aller vers toi.
Oui, il y a une forme de rejet, de toute façon, de la parole de...
Ah bah, ils sont dans leur, comment on appelle ça, dans leur schéma thérapeutique. Voilà, ils ont des lignes de conduite à suivre. Numéro 1, machin. Numéro 2, il ne faut surtout pas empathiser avec le patient.
Oui.
faut pas lui parler de soi. Surtout pas lui donner de l'amour, etc. L'écouter beaucoup. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont écouté me dire mes conneries, mais je disais n'importe quoi pour occuper le temps, hein, pour lui faire plaisir à lui.
Ouais.
C'était pas pour me soigner moi, c'était pour lui faire plaisir à lui. Et donc, ça va nulle part. Alors que quand on est avec des pairs, il y a tout de suite la connivence, la confiance qui se reconstruit. Parce que la première connerie que je vais dire, l'autre, il va me dire « Ah, je l'ai fait avant toi. tu vas pas me la faire à moi. Tes conneries, tu te la gardes pour toi. Bon, on va. Reprenons. T'en es où ?»
Ouais.
Bah, dis-moi combien tu consommes. Ah, je consomme. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je sais bien, pour en être dans l'état où t'en es, t'as pas consommé que ça. Bah, parlons un peu honnêtement. Et on arrive à reconstruire des choses, des chemins, et d'expliquer, réexpliquer le chemin thérapeutique à suivre. Qu'il peut choisir, parce que c'est la liberté thérapeutique qu'il faut défendre.
Oui, il n'y a pas de rapport de pouvoir, en fait, dans un groupe d'autosupport. Non. Donc, on n'est pas obligé d'eux, on n'a pas la contrainte de peur que le médecin nous enferme ou que le médecin...
Exactement. Tout ça, c'est d'écouter l'expérience des autres pour commencer à choisir un truc qui te convient. Tu dis, ce mec-là, il a l'air d'avoir une super vie. Ben, je veux la même. Alors, comment t'as fait? Ah, moi, j'ai fait ça, je suis allé à tel endroit, j'ai fait ça, j'ai rencontré... Ah, ouais, t'as un conseil à me donner? Voilà. Et petit à petit, on reconstruit de la confiance et on prend le temps de construire le chemin thérapeutique. Sachant que quand on rentre dans le chemin thérapeutique, ça prend du temps. C'est quand on consomme pendant 20 ans, ou même 10 ans, ou même 5 ans, c'est pas en 15 jours ou 3 mois de cure qu'on va être guéri d'une maladie qui n'a pas de cure connue, qui est progressive et mortelle. Je le rappelle à ceux qui ne le savent pas. Donc, mais c'est la même chose dans la santé mentale, puisque l'addiction développe toutes les failles qu'on peut avoir. Moi, c'était une dépression terrible, où je me mettais à pleurer tout seul, comme ça. On me disait, alors comment tu vas? Ouais, c'est vraiment les symptômes du truc. Et tout d'un coup, ma vie était finie, quoi. Et ça, les gens, il faut prendre tout. C'est un ensemble, c'est global.
Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, nous, on fait de l'accompagnement. Les gens nous téléphonent, ils disent « Au secours, ça va pas bien. » Et en général, quand ils nous appellent, ils ont fait tout le tour du cadran. Ils ont fait tout ce qui est possible et imaginable. Ils ont dépensé tous les sous possibles et imaginables. Et ils continuent à chercher. Et c'est souvent l'entourage qui nous appelle. C'est rarement le dépendant. C'est moins le dépendant, on va dire. Mmh. C'est beaucoup plus l'entourage. Et c'est ça, ce qui nous a marqué dès le début, c'est la famille, l'entourage. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est une maladie systémique.
Oui.
Qui atteint toute la famille. Mais, et tu te dis, mais c'est bon pour l'addiction, mais c'est bon aussi pour la santé mentale, pour toutes ces maladies dont la personne, tout d'un coup, perd pied. Et donc, c'est la famille qui rattrape. Tout le monde dit, voilà, l'entourage de la famille. Mais l'entourage de la famille, quand elle a un autiste, quand elle a un schizophrène et un dépendant qui ne veut pas se soigner pendant 25 ans, est-ce que c'est la punition est assez longue?
Ouais, déjà, elle est encore là, c'est déjà beau.
Ouais, il est déjà, il est encore vivant.
Ouais.
Il est encore vivant. Mais ils sont désespérés. Ils ont fait tous les recours hospitaliers, psychiatriques. Ils font tout et résultat, zéro. Mm. En plus, souvent, on se met à mélanger les genres. C'est-à-dire, un schizophrène va prendre des drogues en pensant que ça le stabilise, parce qu'effectivement, une ou deux fois, il va trouver un équilibre, et que ça va lui faire du bien, il se dit, bah, j'ai trouvé la solution. Comme nous, au départ. Et la pente est dramatique, parce qu'après, on se retrouve dans des catastrophes.
Donc en fait, vous faites de l'orientation et vous essayez de lier le parcours.
Exactement. D'abord, on informe, on éduque.
Oui.
Je crois que c'est le mot, hein, c'est éduquer, on explique. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du système de récompense, moi, j'avais jamais entendu parler, aucun médecin m'avait jamais parlé que c'était mon système de récompense qui déconne. Et le système de récompense, c'est des messages chimiques dans le cerveau. Qu'est-ce que je vais me battre avec des messages chimiques de mon cerveau? Qui peut se battre avec ça? Enfin, levez la main. Il n'y a personne qui a levé la main dans le studio, je vous promets. Donc, voilà. Et donc, on n'y arrive pas. On ne comprend pas. C'est un truc, ça nous dépasse.
Oui, on ne sait même pas ce qui nous arrive.
Exactement.
Quoi.
Et donc, quand on commence à l'expliquer, ah ben là, ça enlève beaucoup de zones d'ombre et de permis au déni.
Oui.
Donc, on a retiré le truc. C'est une maladie. T'es dans le déni, mon gars. Il faut te soigner. Ouais, mais j'ai fait 15 trucs. Bah, t'es pas tombé au bon endroit, je suis désolé. Manque de bol. Bah, c'est comme ça. Je commune, ascendant manque de bol. Mais on va continuer.
Oui.
Et nous, on peut te dire, voilà, nous, on a fait ça, ça et ça.
Mm.
Mais t'es pas obligé de suivre notre chemin. Il y a d'autres chemins. L'important, c'est de trouver un chemin qui te corresponde. Moi, je t'ai jamais dit d'arrêter de consommer. Voilà, tout de suite, ouais, clean, machin, je sais pas quoi. Non, non, pour le moment, je te parle juste de trouver un chemin de rétablissement pour retrouver un état de santé favorable.
Oui, ou relativement correct, quoi.
Correct. Et en tout cas, trouver les bonnes personnes avec qui tu vas te sentir en sécurité et
oui.
en confiance. Parce qu'on a perdu la confiance dans le système de santé.
Oui.
Complètement. Moi, et encore maintenant, un médecin, j'y vais, je teste.
Mais ça reste un dédale, le système de santé, de toute façon, dans lequel il faut quelqu'un pour nous orienter. Sinon, on s'y perd.
Non seulement ça, et puis en plus, on est tellement fragile qu'il y a de l'abus quelque part. Enfin, eux, si le mec il est mal réveillé, il n'a pas le temps, je vois quoi. Quand on nous file un rendez-vous un mois plus tard, un mois et demi plus tard, c'est du délire.
Ouais.
Il faut arrêter là. Il faut trouver d'autres choses. Hein.
Ouais.
Ça ne marche pas. La personne qui a un rendez-vous avec un psychiatre ou quelqu'un ou un addictologue, on dit, dans un mois ou un mois et demi, bah, moi j'ai le temps de mourir 10 fois.
Ouais.
Parce que la fois où je viens demander de l'aide, c'est maintenant qu'il faut que je sois pris en charge. C'est maintenant qu'il faut que je sois expliqué et accompagné. Qu'on me prenne la main et qu'on me dise bah, « Attends, je viens là. Fais ci, fais ça. Écoute, tu peux. On t'accompagne. Va dans un groupe d'autosupport. »
Bah écoute, on organise, il y a quelqu'un qui vient te chercher, qui t'emmène, qui te prend par la main, qui t'emmène. Et comme cette personne qui va t'emmener, elle connaît tout le monde, tout d'un coup, tu vas être pris en charge par le groupe et ressentir ce truc de faire partie de la vie.
Ouais.
Et on met un pied là-dedans. Mmh. Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Et là, nous, on commence à remettre la route, les limites, ce qu'il faut faire. La même chose pour la famille. Mmh. La famille, elle est complètement impuissante face à la folie de la maladie. Et donc, nous, on organise des groupes de parole tous les jeudis soirs en visio. Et les familles, ils sont là. Ils ont depuis 10, 20 ans des enfants qui consomment, enfin des enfants, des adultes,
oui,
qui ont entre 14 ans et 15 ans d'âge mental. Et y en a certains qui travaillent, qui dérapent dans la choucroute complètement avec les produits.
Mmh.
Ou sans produits.
Oui.
Ou sans produits. Et ces familles-là sont complètement épuisées, ne comprennent pas, ne comprennent plus. Ils n'ont plus de contact ni avec... Enfin, ils peuvent parler avec leurs enfants, ou leur mari, ou leur père, mais ils ne comprennent plus le truc. Et c'est de remettre de la compréhension dans la maladie. C'est que les gens comprennent la maladie. Bah, si ton père ou ton mari dit ça, c'est parce qu'il fait ça, parce qu'il consomme, parce qu'il ne veut pas arrêter de consommer. Et il le prouve. C'est-à-dire qu'il dit oui, mais sa tête, elle fait non, non. On a plusieurs cas avec Maïdine où les gens, on arrive jusqu'à les emmener en centre de traitement pour une désintoxication. Deux jours plus tard, le mec, il s'est barré.
Ouais.
On a bien compris qu'il ne voulait pas.
Ouais.
C'est qu'il ne veut pas arrêter de consommer.
Oui, oui.
On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Alors ça, c'est un peu problématique. On ne peut pas les obliger à arrêter de consommer.
Non, les injonctions thérapeutiques, c'est...
Ça n'existe pas. C'est illusoire.
Oui.
Par contre, donner des cours, informer sur la maladie, les obliger peut-être à écouter ça, c'est une autre histoire.
Mmh.
Je vois bien que là, pour le permis de conduire, les points, là, les mecs, on les oblige à suivre des cours d'une semaine pour récupérer leurs points. Mais pourquoi il n'y aurait pas des cours aussi? C'est ce que nous, on essaye de monter, ce qu'on voudrait bien faire, des cours pour les toxicos qui ont des injonctions, qu'on leur fasse de l'explication de texte.
Au moins qu'ils sachent où ils vont.
Où ils vont. Alors, tu peux consommer, mais si tu vas consommer, ben, va dans l'association responsable.
Mmh.
Réduction des risques. Au moins, tu vas te shooter bien. Mmh. Ils vont t'apprendre à te shooter, à sniffer, à machin, à faire les trucs bien, à défendre tes droits. Tu vas avoir une maison, un appartement, je veux dire, un chez-soi d'abord. Il y a des tas de projets en route que les gens ne savent même pas qu'ils ont droit. Il y a des endroits qui acceptent aussi les gens avec chiens, par exemple, vers Lyon, j'ai connu, etc. Il y a plein de structures, nous on ne les connaît pas tous encore, hein. Vous allez sur Drogue Info Service, mais alors pour s'y retrouver, bonjour.
Oui, c'est peu, ça, il faut de la pédagogie et de l'orientation des personnes.
Moi je suis moi-même perdu.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est ma Maïdine, ce que, par rapport à ce que disait Julien. Effectivement, Agathe, tu as parlé de propositions thérapeutiques, des injonctions thérapeutiques. Effectivement, il y a, par exemple, au niveau de la justice, on propose des injonctions thérapeutiques. Hein. Alors, on envoie les personnes, je sais pas, dans des groupes de parole, ou voir des psychologues, etc. Bon, je dis pas, il y a certains, ça peut marcher pour eux. Hein. Mais de notre expérience, en fait, l'accompagnement par les pères, c'est ça la révolution, en fait. C'est vraiment la père aidant, c'est-à-dire être accompagné par quelqu'un qui a vécu le même trouble psychique.
Oui.
En l'occurrence, là, les addictions. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des troubles schizophréniques, bipolaires, etc. Vraiment, l'accompagnement par la père aidant. Et ça, cette notion de père aidant, je pense qu'il y a le problème en France, c'est qu'elle n'est pas suffisamment cette méthode-là appliquée en France.
Oui.
Alors par exemple, je sais que par exemple dans la formation, d'ailleurs on en avait parlé avec l'AFDER, la formation des magistrats. Mmh. Dans la formation des magistrats au niveau des addictions, ils ont très peu de cours au niveau des addictions. Ce qui fait qu'un JAP, un juge d'application des peines, quand il envoie quelqu'un quand il reçoit quelqu'un qui a une injonction thérapeutique, bah, effectivement, il va l'envoyer vers un groupe de parole qui est tenu par des psychologues ou qui est tenu par une association, oui, mais où il n'y a pas forcément de père aidant.
Il n'a pas votre compétence, en fait, d'orientation et d'accompagnement.
Exactement.
Tout simplement, il fait au pif, quoi.
Exactement. Ce professionnel de santé n'a pas été, n'est pas un père aidant, n'est pas formé à la père aidance. Donc, bon, je dis pas que c'est inutile, hein. Ça peut y avoir des résultats. Mais nous, on a essayé de développer cette notion de pérédance en prenant contact avec le ministère de la Justice. On a envoyé tout un tas de documents au tribunal de grande instance. On n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse du président et du procureur. Parce qu'ils sont pas sensibilisés à cette méthode de la pérédance. Donc nous on a des résultats. Hein. Nous on accompagne des tas de familles, des usagers qui s'adressent à nous. Et c'est dommage quoi, parce que cette méthode là, ça commence. Disons dans tout ce qui est santé mentale, troubles psychiques, ça commence à prendre sa place en France, mais au niveau des addictions, ça a du mal à s'installer.
Alors que c'est plus ancien en fait dans les addictions que dans la santé mentale comme pratique.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a deux modèles. Il y a deux modèles. Il y a le modèle de l'abstinence dans les addictions et le modèle de la réduction des risques. Donc au niveau des politiques publiques actuellement, c'est la réduction des risques. C'est le modèle qui a été choisi. L'abstinence est plus ancien. Moi, quand je suis sorti des addictions il y a déjà quand même 21 ans, j'étais dans un centre de traitement, c'était tenu par des pérédants. Mmh. À l'époque, on n'appelait pas ça pérédants.
Oui, c'est ça.
On appelait ça des thérapeutes. Mais les personnes, c'était des gens qui avaient vécu ces problématiques-là. Donc c'est ancien, l'abstinence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les médecins, les professionnels de santé, ils savent plus très bien où ils en sont. Est-ce qu'il faut se baser sur l'ancien modèle qui est l'abstinence, ou est-ce qu'on reste dans la réduction du risque? La réduction du risque, c'est en gros, une personne, elle peut gérer sa consommation, elle peut gérer sa dépendance. Nous, quand on dit dépendance, c'est quand la personne n'arrive plus à maîtriser le produit. Hein.
Oui,
ça peut être des drogues, de l'alcool, ça peut être une addiction sexuelle, ça peut être une codépendance, ça peut être la compulsion d'achat aussi. Le jeu de hasard, il y a plein de choses hein, dans les addictions, c'est vraiment général. Donc nous, on parle de dépendance à ce moment-là. C'est quand ça fait souffrir la personne, quand il y a des conséquences sur elle et sur au niveau de la famille. Et donc, en ce moment, on ne sait pas exactement... les gens sont perdus.
Oui.
Les gens sont un peu perdus, les professionnels de santé aussi. Et nous, on revendique ce modèle-là parce que on n'est pas contre. Hein. On n'est pas contre la réduction des risques parce que il y a des gens et peut-être qu'ils arrivent à s'en sortir avec la réduction des risques. Voilà, mais nous, en fait, notre modèle, c'est vraiment l'accompagnement par des pérédants. Des personnes qui ont connu ces problématiques et puis qui ont réussi à trouver une solution à leurs problèmes. Et c'est cette méthode qu'on défend.
Mm-hmm. Ouais, les méthodes, elles sont concurrentes ou elles peuvent se s'imbriquer en fait? On peut proposer les deux en fait?
Oui, tout à fait, on peut proposer les deux. Mais ça dépend de la personne. Si une personne, elle arrive à très bien gérer, à consommer de temps en temps, si elle arrive à gérer sa consommation, son addiction, elle y arrive, tant mieux. On est dans la réduction des risques, d'accord. Mais si une personne, elle n'arrive pas à gérer avec la réduction des risques, donc là, on peut proposer d'autres solutions, notamment avec l'accompagnement par les pères, on a des groupes de parole, on propose aussi des groupes de parole aux familles, parce que souvent les familles, elles sont un peu livrées à elles-mêmes quand elles s'adressent aux professionnels de santé, elles sont vraiment perdues.
Oui.
Et puis souvent les médecins, enfin ils les introduisent pas
dans le parcours de soins,
enfin elles sont un peu perdues. Donc nous, on a vraiment des familles qui peuvent venir témoigner, d'ailleurs un jour s'il y a de la possibilité de les faire témoigner à la radio, qui sont vraiment contentes d'être en lien avec des pérédants, des gens qui ont vécu ces troubles-là, quoi.
Oui, ça les rassure et ça leur permet de mieux savoir quoi faire pour elles et pour les autres.
Tout à fait, ça les rassure, oui.
Alors, y a effectivement ce que dit Maïline, c'est nous, on intervient quand la personne, quand il consomme, ça va pas. Et quand il arrête de consommer, ça va pas non plus. Qu'est-ce que tu fais? T'es malheureux quand tu consommes, et t'es malheureux quand tu consommes pas. Et c'est là où il faut trouver la troisième voie. C'est trouver la ressource du rétablissement, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, il y a toi de le trouver. Mais c'est, ça, c'est un chemin personnel, effectivement. Alors, ça peut être à travers la réduction des risques, et puis ça peut être à travers un rétablissement abstinent. Après, c'est chacun. Mais c'est vraiment, on en revient à la liberté du choix thérapeutique. Après, nous, il ne faut pas oublier qu'on est la première génération à revendiquer d'être des toxicos en rétablissement. Avant, ça ne s'entendait pas. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis indépendant en rétablissement. Oui, j'ai consommé 27 ans. Et j'ai 20 ans de clean maintenant.
Mais, ce qui est mal vu, c'était mal
ce qui
vu.
Est mal, ce qui est, voilà. C'est très mal vu. Bah, alors, nous, ce qu'on défend aussi, c'est ce modèle vertueux qu'on est en train de développer. C'est simple, on est dans une société addictive. Il y a des gens qui consomment, qui perdent la maîtrise de leur vie. Avec du travail, de l'accompagnement, ces gens peuvent retrouver un chemin de rétablissement. Et dans ce chemin de rétablissement, je suis désolé, quand vous avez consommé 25 ans ou 20 ans, vous êtes un professionnel de la toxicomanie. Donc vous rajoutez derrière une formation adéquate et vous avez un père aidant hyper compétent qui peut intervenir partout en France. Et le trou qu'il y a justement entre le système de santé qui n'arrive plus à suivre et qui s'essouffle, et la maladie, il est là. C'est le cercle vertueux des associations qui accompagnent, des associations, je parle bien, hein, parce qu'il y a des professionnels de la paire aidance, c'est une autre histoire. Voilà. Mais nous, on croit dans ce cercle vertueux. C'est-à-dire que non seulement on arrête de coûter cher à la société, mais en plus, on participe, on rend à la société ce qu'elle nous a donné. Parce que c'est vrai que la société m'a vachement aidé. En France, on a le meilleur système de santé en Europe et au monde, je le pense, hein, enfin, personnellement.
C'est en tout cas le plus ouvert au plus grand nombre.
Exactement. Enfin, on a une chance incroyable. Mm. On peut se soigner. Mm. Il y a d'autres pays, il faut s'accrocher, les gars. Je parle même pas des États-Unis ou en Espagne, par exemple, vous allez dans une clinique privée, c'est 10 000 euros les 28 jours. Bon. bonjour, au revoir. etc. etc. On a la possibilité et il y a des modèles différents. Alors, chacun de choisir. L'histoire, c'est que le modèle Minnesota qui a fait ses preuves n'a pas essaimé, n'a pas été repris. Et c'est ça qu'on ne comprend pas non plus. Pourquoi tous les œufs dans le même panier? Réduction des risques, adonf. Et pourquoi un truc qui marche, dont on a la preuve, non seulement la preuve, mais en plus les groupes d'entraide qui finissent tous en anonyme. Je ne vais pas les citer. Mais les groupes qui finissent en anonyme ont fait la preuve de leur succès quand même. C'est dans 140 pays, il y a 80 000 groupes chaque semaine qui ouvrent. Ça veut dire, c'est gratos. C'est quoi le problème? Expliquez-moi. Donc voilà. Il y a des groupes d'entraide. Après, il y a tous les autres. Il y a Philibre, on va tous les citer, s'il faut. Mais Croix-Bleu, ça me revient petit à petit. Donc, il y en a un paquet. Ça existe. Les fondations existent. On est cette première génération qui revendique nos droits. J'ai une maladie, je ne vois pas pourquoi je devrais m'en cacher. Le mec qui a le diabète ou qui a un cancer, lui, il se pointe, coucou à son boulot, j'ai besoin d'un arrêt de travail parce que j'ai le cancer. Oh mon pauvre gars, machin. Je me pointe à mon boulot, je suis dépendant, j'ai une crise de manque, tu crois qu'on va me filer mon mon arrêt maladie? Je crois pas. Donc il y a un vrai problème. Si c'est une maladie, qu'elle soit reconnue, c'est reconnu. Mais on se retrouve comme avec la légalisation et le truc de soins. L'interdiction de la drogue et en même temps on l'accompagne par du soin. Enfin, je veux dire, tout se frotte, il y a ce frottement là entre les systèmes. Après, ça se répand tellement largement, l'addiction c'est tellement large. Maïdine, il parlait de la codépendance. Mais c'est un truc de dingue, la codépendance. Ça tue des gens, la codépendance. Ça provoque la maltraitance familiale, etc.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, c'est quoi la codépendance?
La codépendance, c'est quelqu'un qui vit sa vie à travers l'autre. C'est-à-dire qu'il s'approprie de sa vie, il contrôle la vie de l'autre, il vit sa propre vie à travers la vie de l'autre. Ça se passe beaucoup dans la dépendance parce que les parents, au bout d'un moment, vivent la vie de l'enfant, enfin, se projettent dans la vie de l'enfant pour pouvoir le sauver. Et donc, ils font des choses, des fois, complètement dingues pour essayer de le sauver, qui est au contraire de ce qu'il faudrait faire. Et l'autre, il en profite. Lui, il appuie tout. Il connaît les failles. Hein, les dépendants sont des grands manipulateurs. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mm. C'est simple. Quelqu'un qui consomme, c'est pas la même personne que vous avez connue. Mm. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a le comportement modifié. Et donc, modifié, c'est quelqu'un d'autre qui fonctionne différemment et qui peut être violent, méchant, agressif, etc., etc., et développer des maladies connexes. Donc, c'est deux personnes différentes. Et la famille, elle essaye toujours d'expliquer, de dialoguer, etc. Mais il y a un moment, il n'y a pas de dialogue. L'autre, il est parti.
Oui, elle est dans un ancien schéma, la famille, en fait.
Exactement. Et donc, cette codépendance détruit beaucoup. Il faut remettre de l'ordre dans la famille.
Oui.
Il faut remettre des limites. Parce qu'elle se laisse bouffer par la maladie. L'autre, il en profite. Donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, voilà. Le môme, il est nourri, logé, blanchi, et on lui file sa cam. Pourquoi il a changé? Expliquez-moi, moi je suis bien. Hein. Et c'est un peu ça aussi, des fois, avec la réduction des risques. Tu touches un RSA, un machin, ou quelque chose, on te file ta drogue de substitution, et puis t'as un logement. Et ben, bon, pourquoi est-ce que je vais changer si j'ai tout tranquille? Sauf que c'est une zone de souffrance.
Oui.
Dans lequel il est. Oui. Et souvent, on le voit, c'est dans la rechute psychiatrique d'ailleurs que ça se manifeste. C'est tout d'un coup, quelqu'un se retrouve en psychiatrie alors que c'est un problème d'addiction.
Oui.
Et là, on commence à avoir des trucs qui se croisent bizarres. Il y a des courts-circuits qui se font.
Oui, puis sur les institutions, on ne sait plus où les gens vont être pris en charge. Et ça donne n'importe quoi parce qu'on se retrouve effectivement avec des dépendants à l'HP et ça ne leur sert à rien, quoi. Parce qu'on ne va pas traiter leur addiction, en fait. On traitera que le trouble associé.
Ponctuel.
Oui.
C'est pour ça que nous, à travers l'AFDER, on est aussi partenaire avec ton association, Agathe.
Périscope.
Périscope aussi, on peut en parler. Hein,
oui.
Si tu veux en parler. Et aussi, comme des fous, on est partenaire avec eux parce que, dans le cas, par exemple, des addictions en général, il y a aussi d'autres troubles. Il y a la schizophrénie, les troubles bipolaires. Et c'est vrai que des fois, les médecins, ils savent pas quoi soigner en premier. Est-ce qu'il faut soigner l'addiction? Est-ce qu'il faut soigner le trouble psychique? Donc nous, on est en lien avec...
On a un médecin dans l'association.
On a un médecin.
Et une psychologue.
On a une psychologue. On est en lien...
Les deux sont dépendants. Pardon, excuse-moi.
Non, mais...
Les deux sont dépendants.
On est aussi en lien avec d'autres associations de père aidance à travers l'Europe, en Belgique, en Suisse.
En route Wallonie.
Au Québec. Et aussi, on fait partie du Périscope, donc c'est un annuaire qui a été monté par Alain et Agathe, hein, qui en fait c'est un regroupement de pères aidants, de pères aidants qui touchent tous les troubles psychiques, hein, addiction y compris.
Et précarité.
Et précarité, exclusion aussi, et précarité. Il y a aussi des gens qui ne sont pas que dans la précarité, hein, il y a aussi des gens, parce que ça touche vraiment tous les milieux, hein, la dépendance. Hein. Ça touche aussi les milieux aisés, les milieux du showbiz, vraiment ça touche tous les milieux. Alors moi je voudrais revenir sur la notion de dépendance. En fait c'est une maladie qui est reconnue, hein, qui est reconnue par l'OMS, qui a été reconnue par l'OMS en 2005. Donc officiellement, c'est reconnu. Et nous, notre expérience à nous, moi j'appelle ça un peu comme des grands frères. Moi je nous vois un peu comme des grands frères. Bon, je suis déjà grand frère, hein. je suis déjà l'aîné d'une famille de 14 enfants, mais bon, je dis pas ça pour... Mais bon, je pense que on peut se donner un peu cette image-là. Mmh. C'est vrai qu'on a des choses à... On a des choses à redonner, mais là, le problème, c'est que j'ai le sentiment... Moi, j'ai travaillé, hein, j'ai travaillé comme médiateur de santé père à l'hôpital Sainte-Anne. Hein, donc, ça a été... c'est vrai qu'on dérange un peu. On dérange un peu sur le... On marche un peu sur la plate-bande des professionnels de santé. Donc, on se dit, c'est qui ces mecs? C'est qui ces nanas? Ils viennent d'arriver. C'est des anciens tox. Qu'est-ce qu'ils nous ont à nous enseigner? C'est vrai que les gens ne nous font pas suffisamment
confiance aussi.
Et puis il y a aussi un business autour de ça.
Oui.
C'est-à-dire on marche aussi sur leur plate-bande, quoi. Donc
et
ça
puis
dérange
est-ce
aussi.
Que ça sert pas d'alibi à un système médical qui veut simplement qu'on crédite leurs paroles en étant père aidant et que du coup on dit fais ce que disent les médecins et on est un peu là pour ça, quoi, quelque part.
Tout à fait, on est.
Alors qu'en fait c'est une autre mission, la père aidance. C'est autre chose que que ça lié au médical.
Alors, je voudrais
ça lié à la personne.
Oui, alors je voudrais rajouter quand même que les pères aidants, c'est des gens qui sont, normalement, ils sont professionnels de la santé. Parce que le dernier diplôme qui a été mis en place avec l'aide de l'OMS, le CCOMS, donc le Centre
collaboratif
de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont quand même monté une licence Bac+3. Moi, je suis un des premiers qui l'a eu en 2018. Je crois qu'Agathe, tu l'as faite aussi.
Oui, mais moi, j'ai pas vraiment fait longtemps. J'ai fait trois mois parce que justement, je voulais pas être alibi du système.
D'accord. Et... Bon, moi, je l'ai faite, donc j'ai, été, j'ai eu cette licence-là. Donc, on est des professionnels de santé à part entière.
Oui.
Normalement, mais même ce métier-là, médiateur de santé père, ça pense encore du mal à faire sa place. Il y a pas encore. C'est pas reconnu officiellement. C'est, ça a été considéré comme une expérimentation.
Oui.
Donc on ne sait pas encore exactement où ça va aller. Mais il y a aussi des métiers comme patient expert, quand même, qui sont en train de faire leur place.
Mais justement, le patient expert n'est-il pas là pour dire que la parole médicale, de façon vulgarisée, n'est pas son propre vécu, quoi. Quelque part, il y a une faille comme ça qui fait que le père aidant doit développer son propre savoir de père aidant et pas s'approprier un savoir médical pour le remachiner, pour le redonner à la personne qui est suivie. Et ça suppose de formaliser ce que sont les savoirs expérientiels, en fait. À un autre niveau que celui des pères aidants, mais peut-être dans la recherche scientifique en sciences humaines ou des choses comme ça, où il faudrait pouvoir faire de la VAE quelque part, des expériences...
C'est ce qu'on parle. Quand on parle d'accompagnement, l'accompagnement, c'est de l'accompagnement. Il n'y a rien de médical là-dedans. Hein. Je suis désolé. Là, on marche sur une plate-bande. Je prends la main de quelqu'un et je l'aide à aller quelque part.
On reste à notre place.
On reste à notre place.
Exactement.
Et c'est là où eux confondent peut-être de l'autre côté. Ils veulent nous faire. Alors, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y en a quand même qui ont vraiment peur de perdre leur boulot. Hein, parce qu'on est nombreux, hein, quand même. On est 30% de la population. Et il y a quand même un gros lobby aussi derrière. Hein. Il faut savoir que dans les pays où la sécurité sociale, où le poids de la sécurité sociale, qui ne couvre personne, par exemple, qui est au minimum, dans ces pays-là, le modèle Minnesota est au top. C'est ce qui couvre tout. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça. Puisque c'est associatif et gratuit. Mais dans les pays où il y a une grosse tradition d'aide sociale, d'accompagnement, etc.
Et de planification,
il y a un lobby. Il y a des lobbies médicaux, je suis désolé, il y a des lobbies pharmaceutiques. La substitution, ça a un coût par tête de pipe. Et ça représente quand même un paquet de pognon à la fin.
Oui.
Hein, donc il y a quand même des gens qui sont peut-être pas mécontents que tout ça, ça roule tout seul. Sous couvert médical, hein. Alors je dis ça, moi j'ai rien dit, hein.
Non,
mais j'en pense pas moins. Et je pense que c'est là où il n'y a pas la place à des expériences qui ont fait leurs preuves. Alors c'est vrai qu'on est balbutiant. Il faut pas oublier. On a vu que effectivement le gouvernement a pris contact avec des groupes en anonyme pour essayer de monter des trucs. Et effectivement, et comme c'est pas assez développé ici, il y a pas assez de monde qui répond à la demande. La même chose en père aidant. On est au début du processus. Il y a pas assez de père aidant pour répondre à la demande. On est quatre couillons à se démener.
Tous les bénévoles.
Voilà. Hein, mais par exemple, quand on téléphone pour dire maintenant on voudrait participer, demander de l'aide, machin, on nous dit vous êtes trop petit, il faut vous associer à un plus gros. Pourquoi je vais m'associer à un plus gros qui va me bouffer et puis qui va pas suivre notre émotion? Mais la France est couverte de petites associations de familles qui sont pleines de ressources, à qui il manque justement un accompagnement de père aidant, etc., qui pourraient avoir ça. Ce sont des familles de toxicos qui se sont réunies avec un médecin, souvent de campagne, parce que là-bas, il n'y a rien. Et donc, ils essayent de monter des trucs. Et nous, on essaye de les coacher souvent pour leur dire vous pouvez compter sur nous d'abord, pour qu'on puisse, si vous avez besoin d'expérience. Et ensuite, qu'ils s'appuient eux aussi sur les groupes d'entraide. Parce que, quand même, le projet, il est là. C'est que nous, on est l'intermédiaire entre la maladie et les solutions de la société. Donc, alors, groupe d'entraide, psychologue, psychiatre, service de santé, etc.
Puis formation, conseil.
Voilà, formation, conseil. Voilà. Donc, nous, on veut faire cet accompagnement ce qu'on réalise, mais on est au début de tout ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, on se fait bouffer de partout, on se fait traîner dans la boue, mais on est toujours là, puisque nous, c'est une vocation. C'est simple. Oui, oui. Voilà, moi, on m'a sauvé la vie, j'ai envie de rendre. Tout simplement, parce que je sais en même temps que c'est ça qui va me garder en vie. Mmh. Voilà. Moi, je suis MDPH, je suis reconnu à 80%, il ne faut pas travailler. En plus, j'ai eu un cancer après qui m'a foutu par terre. Voilà. Moi, à 3h de l'après-midi, il n'y a plus de Julien. Il est dans son lit en train de dormir. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça, c'est ma vie. Je fais avec ce que j'ai. Mais le matin, en me levant tôt, j'arrive à venir à la radio et à tchatcher un petit peu quand même.
Ouais. C'est vrai que nous, on redonne un peu ce qu'on nous a donné. Quoi. On le fait pour l'instant, bon, on le fait bénévolement. Hein. Moi c'est pareil, hein, je suis MDPH, j'ai des troubles, problèmes de santé aussi. Bon, on a aidé plein de personnes. Hein, alors là j'avais des chiffres à peu près. Moi en France par exemple, c'est plus de 60 000 morts des gens qui meurent des conséquences du tabac. En France, plus de 60 000.
Par an.
C'est la première drogue.
Tabac, alcool, c'est plus de 40 000. En France. Hein,
Chaque année.
Donc rien qu'à voir les chiffres,
On enlève une ville française chaque année.
Donc, alors, ça s'est aggravé avec le confinement. Parce qu'avec le confinement, ça a généré beaucoup de problèmes de santé mentale. Alors, ce qui est bien, c'est que récemment, là, ils ont mis un peu le remboursement des psychologues. Il y a eu un remboursement par rapport à ça. Bon, on n'a pas parlé des pères aidants,
malheureusement. Si, Macron a fait une petite sortie sur les pères aidants en disant qu'il fallait encourager la pères aidance. Mais ça s'est arrêté là. Donc, sinon, c'est 800 postes en CMP et les 800 postes en CMP sont absolument pas des pères aidants.
D'accord.
Et 800 postes en CMP sur toute la France, c'est quand même...
Il y a toute une génération qui arrive. Là, je vous signale quand même qu'on a toute une génération de mômes qui sont collés à leurs écrans. Nous-mêmes déjà les premiers, mais eux, ils sont nés avec. Et tous ces mômes qui, avant 3 ans, sont déjà accros à l'écran avec des troubles cognitifs, etc. Ça va arriver dans pas longtemps. Dans 10 ans, ils sont sur le marché. Hein. Et avec baisse de résultats à l'école, famille dysfonctionnelle, enfin problème de codépendance dans la famille, etc., etc. Tout ça, c'est en train de débouler,
c'est en train d'arriver.
D'arriver sur nous. C'est une société addictive. Mm-hmm. Il faut commencer à faire de l'éducation. On écrit dans les collèges, nous, on écrit, on n'a jamais de réponse. Mm-hmm. Alors, heureusement que ça coûte rien d'envoyer un email, mais on pourrait pas entre-temps envoyer des lettres ou là, après être passé 10 ans. Moi, je suis pas commercial. Hein. Moi, je vais 10 ans au téléphone pour essayer de décrocher un rendez-vous. C'est pas mon truc. Moi, je suis là pour aider les gens à vivre. C'est pas pareil. Mm. C'est de sauver des vies. C'est de regarde, c'est possible. Quand moi, je me disais, putain, je veux mourir. Je n'ai qu'une envie, c'est de mourir tous les jours. Et ça, c'est tous les malades de santé mentale ont ce passage où on n'a qu'une envie, c'est de se flinguer. Mm. Et c'est irrépressible parce que ça s'augmente, c'est une boule comme ça qu'on entretient en plus, c'est un jardin secret, c'est presque romantique, c'est un truc, sauf qu'il y en a un paquet qui passe à l'acte, premièrement, et deuxièmement, il y a les accidents de parcours, voilà, je me fais une petite fête, je termine, je me vomis dessus, et je m'étrangle, terminé. Et fin de parcours. Mmh. Et ça, c'est pas compté. Hein,
dans les résultats. Ouais. Ouais, ouais.
Alors, tout à l'heure, on a parlé des psychologues. Effectivement, il y a eu des remboursements, qui va être fait. Bon, il y a des psychologues. Moi-même, je fais des études en psychologie. Hein, je ne remets pas du tout en cause leur capacité. Hein. Il y a des bons. Pour moi, il y a des bons, comme il y a des mauvais psychologues. Hein. Mais c'est vrai que des psychologues, des fois, moi, j'ai été en contact avec des psychologues. Par exemple, il y a des psychologues, ils ne sont jamais allés à un groupe d'autosupport.
Donc, ils ne savent même pas ce que c'est.
Ils ne savent pas ce que c'est que la pères aidants.
C'est pas pour moi.
Je l'ai vu là, avec des gens, avec des étudiants en psychologie qui étaient en licence 3. Ils cherchaient des stages pratiques. Pour le. Donc, ils sont adressés à nous. Ils ne savaient pas ce que c'était que la pères aidants. Dans les écoles, dans les universités, on ne leur enseigne pas ce que c'est que la pères aidants.
D'accord.
Nous-mêmes, on a envoyé des mails aux universités, au collège récemment, au lycée, pour même la on a vu là il y a un problème avec le crack en ce moment sur Paris. Donc on a eu des élus qui faisaient qui étaient un peu dépassés par la situation. Donc nous on a envoyé des mails pour essayer de d'apporter notre expérience. Moi, je n'ai pas reçu de réponse au jour d'aujourd'hui. Hein. J'ai eu aucune réponse.
On est discrédité parce qu'on est ancien usager.
Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Non seulement, peut-être qu'il y a ça, mais il y a aussi de. Moi, ce qu'on m'a répondu souvent, on m'a dit on n'a pas les budgets.
Oui.
On n'a pas les budgets pour. Nous, on est bénévoles.
Oui.
On est bénévoles. Bon, on peut recevoir des dons, mais on est bénévoles.
Payer l'essence, au moins. Je veux dire, là, c'est ce que j'ai payé l'essence. Payer l'essence.
Exactement. L'autre fois, on devait aller sur Nantes faire une intervention, parce qu'on fait aussi de la formation. On forme des professionnels de santé, etc.
D'accord.
On fait du conseil. À Nantes, on leur a dit, bon, vous nous payez au moins le transport, l'aller-retour Paris, un billet de TGV, et puis le repas. On n'a pas voulu nous payer le... C'était de notre poche. C'était de notre poche.
Donc c'est plus du bénévolat, là. C'est
alors là, si en plus de ça, faut qu'on... Déjà, moi, je suis MDPH, j'ai très peu de revenus. Si en plus, je dois puiser dans mes ressources pour aller à Marseille, à Perpignan, ou je ne sais pas où...
Tu vas pas y aller souvent, quoi.
Je vais pas y aller souvent, non. Donc, alors, ce qui fait du bien, ce que disait Julien, c'est qu'effectivement, le fait de redonner de nos savoirs expérientiels, ça, moi, ça me nourrit, ça me fait du bien. Quelque part, je redonne à la société.
Oui, mais le système n'a pas à s'appuyer là-dessus pour exploiter la bonne volonté des gens.
Justement,
quoi.
J'espère que on sera entendu.
C'est là où nous, on essaye de trouver un nouveau modèle économique qu'on n'a pas encore trouvé, tout simplement. Ouais. On en parle à chaque fois. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a pris aucune subvention d'État.
Oui.
Pour rester indépendant.
D'abord, pour rester indépendant, parce qu'on sait qu'à partir de certaines sommes, on va nous imposer un médecin ou quelqu'un qui va donc avoir un poids sur les décisions de l'association. Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est qu'il faut qu'on trouve de nouveaux modèles économiques. Il faut qu'on invente demain. L'État ferme la bourse tout le temps. Et puis, c'est pas maintenant que ça va s'améliorer pour le milieu associatif.
Oui.
Donc, c'est illusoire de vouloir reposer là-dessus. Il faut qu'on trouve... Alors, sur les inscriptions à l'association, sur une participation, le chapeau qui passe à la fin des réunions, etc., etc.
Ou du financement participatif sur Internet.
Voilà. Alors, il faut pas oublier que nous, on n'est pas des entrepreneurs. Hein. Nous, on est des pères aidants. Et donc, déjà, il faut qu'on mette un site Internet, un système de courrier, de réponse, de machin, de... ça devient très vite une usine à gaz. Et tout ça, ça demande des gens, ça a des coûts, etc. Donc c'est un peu le truc qui se mord la queue aussi. C'est que nous, ce qu'on sait faire, c'est accompagner les gens et leur expliquer comment pouvoir s'en sortir. Après, moi, techniquement, on fait appel à des trucs, des plateformes de bénévoles qui viennent nous aider. On a trouvé pas mal de gens sympas. Et puis, on compte bien. Voilà, sur d'autres structures.
Bien sûr.
Alors, un petit dernier avant que ça ferme. J'ai l'impression que ça va vite.
Oui.
Je vous rappelle quand même que l'addiction, ça commence à 11 ans. Hein, moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 11 ans, 11-12 ans. C'est-à-dire, on fume des clopes, ou machin. Le chemin, c'est là qu'il commence. Et c'est là où il faut intervenir aussi. Il faut expliquer que quand tu vas déraper, mon gars, tu pourras demander de l'aide. Mm. Parce qu'on ne va pas l'empêcher de déraper. Ça, c'est sûr. Hein. Ils vont nous prendre pour des bouseux, des vieux, des machins. Mais on aura mis la petite graine. On aura mis l'information que si tu te casses la gueule, tu pourras t'en sortir s'il y a des endroits. Parce que moi, je ne savais pas où appeler.
Oui.
Et après, chaque fois, c'est 10 ans de plus de souffrance.
Ben oui.
Si tu survis. Mmh. Voilà.
Bon, ben, merci beaucoup.
Dernière question. Comment on fait pour vous contacter?
Ah oui.
Alors, https /// afder.org afder.org et dessus il y a le téléphone qui est là aussi, je peux vous l'en dire, 06 52 23 55 05. N'appelez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Et le mail, c'est le courriel électronique, je préfère. info@afder.org. Voilà. Et là, il y a toute l'information. Et de toute façon, en tapant AFDER, A-F-D-E-R, on sort en premier quand même. On est arrivé à ça.
C'est déjà ça.
Merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis.
Merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup. Et bah, j'espère qu'on vous reverra peut-être pour faire pour venir avec des familles ou des personnes que vous avez accompagnées qui pourraient exprimer un peu différemment ce que vous faites.
Donner une expérience.
Ouais.
Donner une expérience aussi.
Tout à fait, on peut venir avec quelqu'un, bien sûr.
Eh bien, c'était l'association AFDER sur l'entonnoir, à l'entonnoir sur Radio Libertaire. Nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir, salut.
Merci, bravo.
J'arrive tard, je le sais bien. Pour vous, je viens tourner la page. Je vous reviens. Je reviens vous parler d'amour. Après tant et tant de détours, de voix qui ne menaient à rien. Je vous reviens. Je reviens vous parler d'amour. Après tant et tant
misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily.
Emily.
There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. See Emily play.
Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun. Bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric, de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie. T'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de Bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote, t'as de la veine. Faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Horace, Kabylie, Mitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé. Je suis comme un petit sac en papier, y'a plus rien dedans, tout est cassé. J'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je suis en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tôle, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais, et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Dans tes ruisseaux
Et le vent du nord qui prête main forte à la mer pluie qui est tout en eau. Ma vieille branche, t'as des prénoms comme des gerçures d'azur.
Passing back and forth in our passionate
Les aviateurs lâchent leurs bombes avec application. Beau monde des masures, de la mine et des champs, mes frères, vous voilà transformés en charognes, en squelettes brisés. La terre tourne en vos orbites, vous êtes un désert pourri, et la mort a rompu l'équilibre du temps. Le 26 avril 1937, jour de marché, dans les premières heures de l'après-midi, les avions allemands de la Légion Condor au service de Franco bombardèrent Guernica durant 3 heures et demie, par escadrille, se relevant tour à tour. La ville fut entièrement incendiée et rasée. Il y eut 1654 morts, tous civils. Ce bombardement avait pour but d'expérimenter les effets combinés des bombes explosives et des bombes incendiaires sur une population civile. Les balles des mitrailleuses achèvent les mourants.